Actu SF, les podcasts.
Merci pour votre participation. Merci d'être avec nous. Super, merci. On peut remercier les techniciens, c'est cool. Bon, on a un sujet sérieux, on va arrêter de rire. Hein, on va voir si on enterre nos corps ou pas. Aujourd'hui, du cannibalisme rituel à l'enfouissement de pharaons, entourés de serviteurs et de richesses, en quoi les cérémonies mortuaires parlent-elles de nous ? On y va, on vous laisse la question et puis vous avez deux heures. Autour de cette table, pour répondre à cette question qui va très bien un samedi soir, on accueille Philippe Guillet, qui est notamment le directeur du Muséum de Nantes et depuis octobre 2013, ce sera notre caution scientifique. Hein, véritablement, il va pouvoir nous raconter les différents rituels qui existent et un petit peu leur signification. À ses côtés, Sarah Doc, traductrice, auteur, je cite tout le temps Techno Fairies au mouton électrique, mais vous pouvez aller voir les différentes nouvelles, grand spécialiste de la science-fiction qui nous parlera peut-être de la mort et de la science-fiction. Enfin, peut-être, c'est sûr. Voilà. Et puis, à ses côtés, Xavier Mauméjean, diplômé en philosophie et sciences des religions. Vous avez tous lu, évidemment, du Xavier Mauméjean, avec le dernier, c'est la Société des faux visages, aux éditions Alma. Et évidemment, je vais l'embêter sur le plan philosophique et religieux. Pour commencer, peut-être, Xavier, que tu nous définisses un petit peu ce qu'est la mort du point de vue philosophique. En deux minutes.
Alors, en fait, la mort, tout le monde sait ce que c'est, puisque vous êtes tous en train de mourir en ce moment. Je ne vais pas vous gâcher le samedi, mais c'est comme ça. Et nous aussi, on en est conscients. La mort est un phénomène universel qui affecte par définition l'ensemble du vivant. Mais ce qui distingue l'être humain, du moins pour l'instant, de ce que l'on en sait, les autres espèces, c'est la conscience d'être mortel et de ne pouvoir y échapper. En tout cas, c'est une conscience abstraite qui va donner l'art, la religion, etc. Et cette conscience de la mort et cette conscience de mourir fait que, par exemple, en philosophie, on parle d'horizon indépassable, c'est-à-dire c'est ce qui vers quoi l'on tend et ce derrière quoi on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Et ce qui provoque en partie la difficulté à accepter sa mort, c'est que la certitude de la mort s'accompagne d'une double incertitude qui est que on ne sait pas quand ni dans quelles circonstances. Et donc, ce phénomène qui est universel, pourrait-on penser, donne lieu à des comportements absolument identiques chez tous les êtres humains ? Or, ce n'est absolument pas le cas, au point que, d'ailleurs, dans l'Antiquité, le philosophe sceptique Énésidème avait recensé 10 points, 10 modes, qui fait que jamais on ne pourrait accéder à la vérité. Par exemple, le mode 1, il est très simple, c'est que en tant qu'être humain, on comprend le monde, le réel, en tant qu'être humain, et qu'on ne pourra jamais comprendre le vécu d'une fourmi ou d'un chien, etc. Et il recense comme ça 10 raisons d'accepter qu'on ne connaîtra jamais la vérité. Et la 10e raison, le mode 10, c'est la variété des comportements humains à l'égard de la mort, et notamment dans les rituels. Donc il évoque, et c'est passionnant d'un point de vue anthropologique, différentes cultures qu'il connaît, par exemple les Scythes, qui sont des nomades, etc., les Mèdes qui mélangent les chairs de leurs ancêtres avec de la viande de chien pour les manger. Le chien est un animal sacré chez les Mèdes. Et donc, la mort commun à tous les êtres humains, les façons d'aborder la mort, au contraire, varient du tout au tout.
Du coup, je vous passe la parole.
Oui, mais c'est intéressant d'ailleurs cette définition de la mort en philosophie, parce que la mort en biologie, on a de plus en plus de peine à la définir. Et c'est très drôle parce qu'on avait une conférence hier aussi, et on parlait de la vie. On a énormément de peine à définir la vie. On a un moment de peine à définir la mort. Cette espèce de continuum, là, bon, il veut bien, à un moment donné, évidemment, il y a la condition physique de la mort qui fait que on a cette question aussi d'irréversibilité, hein, qui est là, patent au niveau de la mort. Mais la conscience de la mort. Alors ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Je sais pas si vous connaissez Coco le gorille. Coco, c'était cette gorille à qui on lui avait appris la langue des signes. Et puis, à un moment, on lui avait demandé, mais alors je ne sais pas dans quel terme on lui avait demandé, on lui avait posé des questions sur la mort. On met dans un trou, puis après, c'est fini. Donc, il y avait quand même une question de... Donc, chez un grand singe, parce que il y a de plus en plus d'études hein, qui sont faites, évidemment, sur ces grands singes. Et évidemment, la limite qui a été quand même définie par la religion pendant très longtemps, entre ce qui est l'humain et puis ce qui est le non-humain, devient de plus en plus difficile à cerner. Et des réactions comme celle de Coco, la gorille, sont quand même très, très impressionnantes parce que il y a quelque part cette notion que sa vie va s'arrêter quelque part. Alors, il n'y a pas encore cette nécessité, pour l'homme de s'inventer une religion pour avoir l'idée d'aller plus loin encore, hein, et de se dire pourtant que les choses, un moment ou un autre, en tout cas d'un point de vue physique, s'arrêtent. Et ça, c'est assez troublant.
Oui, Sarah, vas-y.
Je vais juste intervenir pour dire que aujourd'hui, dans certains pays, dans certaines cultures, on a dépassé le tabou religieux. Au niveau de la mort, on a, comme en Belgique ou en Suisse, des possibilités de contrôler sa mort. Et donc, de dépasser cette peur, cet inéluctable, ce mystère, grâce au suicide assisté ou à l'euthanasie. Et donc de décider le jour où on considère qu'on n'est plus en état de continuer sa vie d'une manière, j'ai perdu le mot, digne, décente, agréable, on peut choisir de mettre fin à sa propre vie. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et ça, c'est aussi ça montre bien le dépassement du tabou absolu qui a été très très important et qui est encore très très important dans un grand nombre de cultures.
Est-ce que je m'écarte du sujet pour rebondir, est-ce que dans l'histoire de l'humanité on a des civilisations où on pouvait choisir sa mort comme l'euthanasie aujourd'hui qui fait débat dans notre monde, enfin dans notre actualité?
Alors, choisir sa mort comme l'a expliqué Sarah, je ne pense pas, je ne m'engage pas, mais je ne pense pas parce que c'est déjà une détermination extrêmement chrétienne, celle de contourner. Parce que, en fait, je fais une petite parenthèse, pourquoi chez les chrétiens le suicide est le pire des crimes ? Non pas le meurtre, non pas le viol, mais le suicide, c'est tout simplement parce que on est mort, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais regretter et expier. Donc c'est déjà une détermination extrêmement chrétienne, cette nécessité de mourir quand Dieu a décidé pour nous. Et donc cette décision de mourir parce qu'on le veut, non. Maintenant, le don de soi par la mort, au contraire, c'est extrêmement fréquent. On trouve ça dans les peuplades nordiques, chez les Aztèques, évidemment. Le don de soi, mais pas avec cette culpabilité et ce poids du péché.
D'accord. En regardant, en préparant un petit peu la table ronde, sur la page Wikipédia à rituel mortuaire, il y a cette phrase qui, et vous allez me la confirmer ou pas, qui dit en gros la civilisation naît à partir du moment où on enterre ses morts, à partir du moment où on fait un rituel. Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui ?
Alors le terme de civilisation est un peu compliqué, peut-être que c'est pas tout à fait le terme qu'il faudrait employer, mais les premières sépultures constatées, elles sont à moins 100 000 ans. On les a déjà chez, je sais pas, l'Homo sapiens, hein, on les a aussi chez Néandertalis. Donc là, on a la preuve qu'effectivement, il y a une attention qui est opportée aux morts. Hein, donc ça, c'est évidemment le côté très social de l'être humain qui vit en société et qui prend soin. Mais ce sont véritablement les premières traces. Y a-t-il eu plus loin encore chez les premiers homos, d'autres homos, pas forcément l'Homo sapiens, ni même l'Homo Néandertalis, des d'autres On ne sait pas, il n'y a pas assez d'éléments fossiles pour en parler. Mais en tout cas, sur Homo neanderthalis, oui, ça sent aucun problème. Sur l'Homo sapiens, bien entendu, et quand on regarde au niveau préhistoire, d'ailleurs, les archéologues sont souvent sur des tumulus, sont souvent des sépultures. C'est principalement leur objet d'étude, hein, on le voit très bien. Et donc, avec un certain nombre de rites qui sont liés à ces différentes cultures qui se sont succédées, que ce soit au néolithique ici dans nos régions, on a quand même le très bel exemple de tout ce qui est tumulus, bon, à moins 5000 ans à peu près, hein, dans ces eaux-là où effectivement il y a quand même cette grande civilisation qui prenait un soin extrêmement particulier pour enterrer ses morts, pour les protéger et les vénérer en quelque sorte.
Mais est-ce que c'est encore aujourd'hui un marqueur de civilisation ou est-ce que les lignes ont bougé sur les définitions ?
Alors est-ce que c'est probablement un marqueur, mais c'est pas le seul marqueur non plus. Hein. Je pense que le fait que l'homme vit en société, que c'est un animal, sociable. Moi, il y a ce besoin de communauté, et je crois qu'effectivement, prendre soin du corps de l'autre après sa mort fait partie de ces marqueurs, oui, sûrement.
Les éléphants n'ont-ils pas des rituels ?
Le cimetière des éléphants.
Mais pas forcément le cimetière, mais il y a des rituels autour de la mort et autour du souvenir chez les éléphants.
Oui, l'éléphant a... Tout à fait, l'éléphant a une mémoire, on le sait, hein, qui est assez phénoménale. Le soin, je ne sais pas, vous avez tous en tête, hein, vous l'avez vu, j'imagine, ces images où on a des éléphants qui sont en train de revenir sur des squelettes d'éléphants et qui sont en train de les prendre à travers leur trompe, d'y prendre une attention vraiment particulière. Donc la compréhension de l'animal qui était là avant, bien entendu. Oui, tout à fait. Chez les oiseaux aussi, hein, on a quelques exemples aussi. On a des oiseaux qui ont évidemment une attitude envers leurs compagnons qui est quand même très particulière. Les inséparables. C'est typiquement aussi un cas où, bien sûr, quand il y a la mort d'un individu, ou même chez nous, les pigeons, un pigeon, un couple de pigeons. Enfin bon, moi j'ai des souvenirs étant gamin, et malheureusement, ça se faisait assez couramment hein, d'aller à la chasse. C'est pas moi, hein, j'étais accompagné de chasseurs. Toi, le pigeon, bah, évidemment, mort, et de voir passer 2-3 jours après, et toujours l'autre pigeon tourner autour. C'est des moments.
Les corvidés font ça
ouais,
aussi.
Oui, les corvidés, bah oui, c'est parmi les plus intelligents des oiseaux, ouais, tout à fait.
Après avoir défini la mort en 2 minutes, Xavier, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'aspect religion des rituels ? Toutes les religions se sont appropriées les rituels de mort, entre guillemets, de vis-à-vis des cadavres et des décès ?
En fait, les religions sont appropriées deux événements qui sont extrêmement importants et qui sont même... nécessaire à chacun de nous, c'est la naissance et la mort. La Bible, la Genesis, commence par la création, en fait. Les deux concernent notre table ronde, c'est la naissance du corps et la mort du corps. Et or, ce qui est intéressant, c'est que naissance et mort sont des événements dans lesquels on est l'acteur principal et pour cause, mais dont on n'a pas de mémoire. Par exemple... pour la naissance, vous êtes tenu de vous en remettre à ce que disent vos parents. Peut-être que lorsque vous avez 18 ans, autour du gâteau, ils vont vous dire « Ah, au fait, tu as été adopté ». Donc, vous ne savez pas. Il y a déjà une délégation et une nécessité de l'importance de l'autre, justement, dans la naissance, et pas que dans le corps mort pour lequel on laisse aux autres le soin de s'occuper. Le corps naissant dépend déjà des autres. Et c'est un mystère puisqu'on ne s'en souvient pas. Et par définition, la mort, votre mort, notre mort, dont nous sommes l'acteur principal, on n'en a pas non plus le souvenir. Et donc, pour revenir à la question, oui, toutes les religions s'intéressent à la mort du corps et à la naissance du corps. C'est vraiment le fameux alpha et oméga.
Et qu'en est-il, je me permets de poser une question à Xavier, qu'en est-il de cette tentation d'éternité et donc de ces croyance en l'âme, en un au-delà, en une continuité, dans une continuité quelconque, d'une, non pas forcément du corps, mais d'une partie de l'identité et de la réalité de l'être.
Là, on est embarqué loin, mais déjà, techniquement, l'éternité, c'est une durée à laquelle on n'accédera que vraiment au dernier moment, puisque nous, on est des êtres dans le temps. On est des êtres, d'un point de vue religieux, hein. On est des êtres dans le temps, on est des êtres de la création. On a été créé, le temps a été créé, nous sommes des êtres créés. Donc le temps, il a un début et une fin. La question, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait avant le temps, elle n'a pas de sens, puisqu'il n'y avait rien, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de temps avant le temps. Bon. Dieu, lui, évolue dans un temps qui n'a ni début ni fin, qui est un temps, enfin une durée plutôt, immobile, et qui est l'éternité. Ce qui pose des problèmes typiquement médiévaux, des casse-têtes du style « et les anges », est-ce qu'ils sont dans le temps ou est-ce qu'ils sont dans l'éternité ? Ben, ils sont dans le temps puisqu'ils ont été créés. Donc ce désir d'éternité, en fait, c'est un désir tardif parce que seule l'éternité appartient à Dieu. Nous ne pouvons, au moins dans un premier moment, accéder à l'éternité.
Il y a cette notion aussi de sempiternalité, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un début et il n'y a pas de fin. Et alors, pour reprendre sur cette question d'éternité, on a présenté au Muséum à Nantes l'exposition Éternité en 2017. Elle sera présentée à Rennes en 2019. Et quand on a réfléchi pour l'exposition, on était avec une collègue canadienne. Elle venait juste de perdre son papa. Bon, donc elle était dans cette réflexion, qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. Et au lieu de faire une exposition sur la mort, les rituels, parce qu'il y en a eu énormément, hein, il y en a eu très très belles à Paris notamment, on s'est dit on va plutôt s'intéresser à cette question d'éternité, hein, le temps, évidemment, l'homme a toujours, de tout temps, voulu vivre plus longtemps. Et notamment, évidemment, on commençait par une momie. Hein, c'est vraiment l'exemple le plus facile et le plus évident comme illustration. Et ensuite, on a parlé, bien entendu, du transhumanisme. Hein, ça, c'est vraiment une question complètement d'actualité sur ce côté de vouloir vivre éternellement. Et puis, on a parlé du temps de l'espèce et puis du temps de la vie sur Terre. Et puis, on est arrivé à cette conclusion. Vous avez tous en tête cette phrase hein, qui a été popularisée évidemment par Uberis, mais qui n'est pas de lui, qui est de Carl Sagan, hein, tous poussière d'étoiles, parce que d'un point de vue tout à fait physique, les éléments qui nous constituent sont des éléments qui sont nés depuis le début, en tout cas, de l'univers, un petit peu moins de 14 milliards d'années, et qui ont été créés par une succession de phénomènes. Vous avez probablement entendu parler de Big Bang, de supernova, etc., etc., et qui ont créé les différents éléments qui nous constituent. Et qui vont constituer et qui vont continuer après. Alors la conclusion finalement de l'exposition, c'est oui, la mort bien sûr, mais que l'éternité est déjà en nous par les aimants qui nous constituent. Le fer qui est dans notre hémoglobine, mais c'est un fer qui est né il y a déjà très très longtemps. Donc c'était ça le point qui nous paraissait important pour parler d'éternité et pour parler du temps, de la mort.
Xavier ? Le problème, c'est que le rapport de la mort à la religion n'est évidemment pas le même selon les religions et donc les cultures. Mais concernant, par exemple, le christianisme, il y a deux choses dans le christianisme. Il y a agir bien, mais ça, c'est le corps vivant, et la peur de la mort. Et ce sont deux choses distinctes. Or, si on prend par exemple, et sans trop de polémique, si on prend les catholiques, il y a beaucoup de catholiques, mais parmi eux, il y a très peu de chrétiens, en fait. Parce que trop souvent, la religion est interprétée comme étant une assurance sur la mort. Si j'adhère à cette religion, alors je survivrai. Et justement, la poussière d'étoiles n'est pas rassurante. Non seulement il faut que je vive après la mort, mais il faut que je retrouve mon corps. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'être encore soi après la mort. c'est pas rassurant de savoir que on va se fondre dans le tout divin ou dans le tout cosmique comme en Inde. Non, moi j'ai envie d'être Xavier Mauméjean plus tard, etc. Mais le problème, c'est que on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que on peut pas avoir une assurance sur la mort, adhérer à une religion pour vivre égoïstement, littéralement, et ne rien faire. Et on oublie trop souvent qu'il faut une action bonne, il faut agir bien, il faut avoir le souci de l'autre, autrement dit, prendre en compte son corps, pardon, et le faire agir moralement.
Sarah ?
Moi, ça me fait penser, c'est pas dans la littérature, mais c'est enfin, quand même un petit peu, puisqu'il y a Omar Khayyam, c'est le vieil homme de la montagne, et la création des Hashishin, qui est aussi en fait la création de la légende qui n'est absolument pas dans le Coran, ni dans les hadiths qui sont les commentaires et les ajouts au Coran par Mahomet, mais aussi par ses disciples, des fameuses 72 vierges et en quelque sorte du kamikaze qui, au lieu de porter des bombes, portait un couteau, mais en mourant pour la religion, en mourant pour Allah, on obtient à ce moment-là l'attention de 72 vierges, toutes plus belles et plus douces les unes que les autres. Et c'est une croyance qui est venue d'une secte politique, parce que Hassan Sabah se battait contre Haroun al-Rachid, qui était son ancien condisciple à la madrasa, et a voulu abattre ce pouvoir avec l'aide de jeunes gens qu'il manipulait avec des drogues. Et encore aujourd'hui, on utilise cette invention pour justifier le martyr.
Alors, on a deux coups d'avance sur ma question. Deux choses. La première, c'est est-ce que on a bien compris que sur le rituel chrétien, il y a la volonté d'éternité. Est-ce que sur des rituels de crémation, c'est la même dynamique face à la mort?
Ah, la question m'est posée. Je me frotte un petit peu en regardant un peu ces rituels, parce qu'on n'est plus tellement dans le domaine réellement scientifique. Hein. La question, elle est plutôt d'ordre, je dirais, d'un autre ordre, en tout cas. Par rapport à la crémation, par rapport au corps, par rapport à tout ça, non, je préfère ne pas répondre.
Je veux bien dire une ou deux petites choses, non pas dans les rituels anciens, mais dans les rituels nouveaux autour de la crémation. Il y a une idée d'éternité au travers de la crémation, parce qu'avec la crémation, il y a la possibilité de devenir de l'humus, il y a la possibilité actuelle de faire pousser un arbre. Et il y a la possibilité de devenir un diamant. Donc, toute une série de marqueurs d'éternité. Et donc, au travers de la crémation, on a un nouveau rituel d'éternité.
Xavier, nouveau rituel qui concerne les souris?
Oui, tout à fait. Ça date d'il y a 15 jours. Le Wall Street Journal a fait une enquête sociologique sur la mort aux États-Unis. Et il apparaît que, donc ça date d'il y a une quinzaine de jours, la publication de l'enquête, et il apparaît que les nombres d'Américains incinèrent les cadavres de leurs proches pour répandre les cendres à Disneyland. Et donc, vous êtes dans la fontaine It's a Small, Small World, et il y a Tonton qui flotte, ou... Vous êtes répandu dans les jardins de Cendrillon, mais c'est très embêtant pour Disney parce que déjà ça a réveillé cette légende urbaine comme quoi Walt Disney aurait été cryogénisé. Donc déjà ça leur plaît pas des masses. Et ensuite ils ont été obligés de former. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la communication? Mais en tout cas ils informent sur ça des gens spécialistes en décontamination. C'est peut-être même pas vrai, mais c'est pour dire au public que ne vous inquiétez pas, continuez de venir dans le parc, vos enfants vont pas mariner dans les cendres de gens inconnus.
D'ailleurs, c'est un problème, et là, j'ai effectivement une étiquette plus scientifique, mais nous sommes des déchets toxiques. Hein. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument bien intégrer, c'est que de toute façon, on a une accumulation par nos, évidemment, notre alimentation, notre mode de vie, qui fait que maintenant, on peut considérer les corps comme des éléments toxiques. Et on parlait aussi de la question de la crémation. Vous le savez très bien que les porteurs de piles, par exemple, bien, on est obligé, on ne peut pas les incinérer aussi facilement que ça. On est bien obligé d'enlever la pile avant de pouvoir l'incinérer. Donc, vous voyez, là, il y a une notion aussi d'environnement et qui est peut-être aussi très intéressante, c'est cette notion d'urne sur laquelle on fait pousser un arbre et qui est quand même quelque chose de beaucoup plus poétique et de continuité dans nos affaires.
Il y a une autre solution. Il y a la jeune fille, il y a 2 semaines, je crois, qui a cuisiné des cookies avec les cendres de son grand-père, je crois. Et donc, il fallait manger le mort. Quelqu'un veut du chocolat.
En préparant ta blonde, on disait que ça pourrait être une activité aux Utopiales, hein, par exemple, un petit jardin.
Tu aimes ton grand-père, reprends-en.
Voilà, par exemple, hein, dans les cours de cuisine. Sur les rituels dont tu parlais, je vais redevenir sérieux, mais sur l'aspect politique des rituels, est-ce qu'ils ont toujours un aspect politique ? Sarah,
non, mais c'est...
Oui, moi aussi, je réfléchis toujours à la question posée auparavant, et ça me travaille. Je suis désolé, là, j'ai pas dormi cette nuit encore, hein, parce que j'ai pas une réponse à fournir, une réponse intéressante. Ben, la politique, c'est la vie de la cité, donc de toute manière, je pense que oui, c'est bien sûr, ça a toujours eu un intérêt, y compris, je pense, notamment dans ces grandes civilisations néolithiques, où on avait une attention très forte, hein, sur la mort. Donc oui, c'est pratiquement, ça va ensemble. C'est 2 choses qui vont ensemble, qui sont indissociables.
Et ce qui est intéressant, c'est que même dans des modèles qui se voulaient à l'opposé de la politique traditionnelle, je pense par exemple au régime soviétique, il y avait toujours les reliques, Staline, Lénine ont été exposées. C'est-à-dire que ça transcende même la religion. Ça devient un sacré politique. Mais oui, certainement.
Oui, puis il y a toutes les interdictions, il y a aussi ce que ça va devenir, et donc la manière dont on va raconter la réalité à la population, qui est politique, qui va entourer ce rituel aussi.
Je rebondis juste, est-ce que les restes de Lénine, c'est comparable aux saints dans nos églises qu'on garde le petit bout d'os de Saint-Maximin ? Ouais.
Ça me paraît, oui, assez comparable, oui, parce que c'est la dimension du sacré. Il y a un sacré qui n'est pas nécessairement religieux, donc oui. Mais par exemple, bon, dans le sacré religieux et politique, il y a quand même un rituel qui vaut le coup. C'est le rituel de Xipetopec, notre seigneur l'écorché, ou notre seigneur d'or, c'est chez les Aztèques. Donc, de temps en temps, dans le peuple, on choisissait quelqu'un de très beau. Alors, ça peut être un homme ou une femme, c'est indifférent pour incarner Xipetopec, donc le dieu des moissons. Bon. Et donc, il était très beau. Et le jour dit, il était présenté à la foule. Puis, il était amené dans la cellule des prêtres qui se situait en hauteur du temple. Et là, il faut savoir que les prêtres vivaient ensemble dans une espèce de mélange de folie, de sang. Leur robe était teintée littéralement de sang, etc. Donc l'incarnation du dieu était amenée parmi les prêtres, et là il était violé, symbole de la fertilité, et puis il était tué en lui enfonçant une aiguille dans la nuque, de manière à ne pas abîmer le corps, puis on lui arrachait la peau intégralement, et le visage aussi, et donc il était mort, le corps était dépecé, puis un prêtre enfilait la peau et le visage qui était recousu, et il était représenté au peuple, donc justement le corps était renaissant, puis il dansait plusieurs jours jusqu'à ce que les hématomes deviennent jaunes, d'où son nom de notre seigneur d'or. Et là, la moisson, la fertilité était garantie.
Il y a par rapport à la moisson et à la fertilité, il y a une infinité de rituels meurtrier de rituels sacrificatoires dans l'histoire. Les gens qu'on va... Et dans la littérature aussi. On peut voir chez Guy Gavrielke, par exemple, dans... je crois que c'est dans sa Rance, comment on assassine des hommes et des femmes après avoir brûlé les champs pour nourrir la terre de leur sang après les avoir fait copuler. Il y en a plein.
Tout le monde va bien ? je voulais qu'on parle aussi des rituels où on enterre les corps et puis on les déterre. On l'a évoqué un petit peu.
Il y a des exemples, notamment en Asie du Sud-Est, hein, où ils le font et ils font participer d'ailleurs les morts pendant longtemps à leur fête. Hein. Les morts sont encore parmi les vivants pour un certain temps. On a parlé aussi des funérailles célestes, hein, qui ont lieu effectivement au Tibet. Hein, vous avez tous entendu ce qui se passe sur ces questions de funérailles, où effectivement il y a, des spécialistes, une personne spécialisée en tout cas, qui va recueillir le mort à la porte de sa maison et qui l'amène sur les hauteurs, qui le dépèce, qui le mélange avec de la nourriture pour donner à tous les vautours qui sont autour pour que effectivement le corps puisse disparaître et partir dans le ciel. Oui, il y a quand même des exemples. On pourrait en citer, je pense, d'autres. Je suis en train de réfléchir sur la question aussi dans plutôt des périodes plus anciennes que les périodes actuelles. Alors, on a des éléments, hein, bien entendu, pour essayer de comprendre quel était, qu'est-ce qu'on faisait, comment on appliquait la mort. Surtout, je pense à tout en Occident, hein, dans le domaine notamment du néolithique. Il y a des éléments de compréhension. Enfin, en tout cas, il y avait une part qui était très très importante pour la mort. Il y a aussi ces questions où vous les avez tous en tête, ces questions de tourbe, de tout ce qui était retrouvé dans les tourbières. Hein. C'est aussi des éléments par rapport au corps qui, on sait très bien quand même que les tourbières. Bon, il y avait toujours un côté magique, hein, dans les tourbières parce qu'il y a du méthane qui se dégage et puis il y a les feux follets. Hein. Donc il y a un côté magique, mais pourquoi on retrouve toujours, souvent des sacrifiés d'ailleurs, hein, prisonniers ou pas, dans ces tourbières. Là, on est dans des périodes plus récentes, mais tout de même. Là encore, mais la mort était beaucoup plus présente, hein, y compris dans des temps plus récents, hein, plus présentes. Maintenant, on a une distance vis-à-vis de la mort qui est... qui est très standardisée, qui est très froide, qui n'est pas du tout cette relation ou ce moment de passage, hein, qui était quand même pendant longtemps évoqué.
Vous connaissez la différence entre un saint ou un vampire ? La différence, c'est l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Certaines personnes, que ce soit des grands religieux ou des personnes dont on se méfiait, ont vérifié le taux de putréfaction de leur corps. Or, en Occident, si le corps était conservé, mais qu'il y avait ce qu'on appelle l'odeur de sainteté, qui est en fait une puanteur de putréfaction, mais s'il y avait une conservation, c'était un saint. Selon l'Église d'Orient, si le corps était conservé, c'était un mort malfaisant dont il fallait percer le cœur avec un pieu et couper la tête. Donc, c'est vraiment des visions totalement différentes. Et nous avons un gros problème actuellement parce que comme nous ne sommes de moins en moins putrescibles à cause de notre alimentation, etc., etc., non seulement ça pose de gros problèmes dans les cimetières parce qu'il n'y a plus de place. Avant, les corps se putréfiaient, donc on pouvait entasser, faire des réductions de corps. Maintenant, il n'y a plus de place. Et que va-t-on en faire ? Sont-ce des saints ou des vampires ?
Eh oui, deux pays, deux ambiances. Finalement. J'en ai perdu, voilà, le bonheur de faire une blague, j'en ai perdu ma question. Bon, oui, la blague valait le coup, évidemment. Sinon, là, j'aurais pas fait. Est-ce que la mort, alors la mort dans la science-fiction, en préparant la table ronde, je vois pas énormément de rituels.
Il y en a très peu. On parle de toute façon beaucoup plus d'éternité et de vie éternelle que de mort. Bon, il y a certains rituels extraterrestres pour les morts. Il y a un ou deux rituels où le mort devient une étoile. En fusion, bien sûr. J'ai un souvenir chez Philippe Pullman, c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy. Pour la jeunesse, dans les royaumes du Nord, il y a une scène où les enfants, avec Lord Daemon, vont libérer les morts. Et les morts sortent des enfers et deviennent des particules. Et des milliers et des milliards de particules pour nourrir le monde de leur réalité. Et dans une sorte de rituel, il y a un doublé pour moi. Il y a Ahriman, l'homme qui vendit la lune, qui a fait entrer en cachette un petit sac de diamants sur le premier vaisseau qui allait à l'unir, pour faire croire qu'il y avait des diamants sur la Lune, parce que son rêve, c'était d'aller sur la Lune. Et quand enfin ça a été possible, commercialement et autres, il était trop malade et on lui a interdit de partir. Donc il a payé des contrebandiers pour l'emmener sur la Lune et il y est mort. Son premier pas. Et dans Space Cowboys, film de science-fiction, il y a une espèce d'hommage à ça, où le membre de l'équipage qui est malade doit faire exploser un certain nombre d'explosifs qui sont dans un satellite et choisit de les emmener avec lui et il arrive jusqu'à la Lune. Et c'est un ancien astronaute qui n'avait jamais eu la possibilité d'aller sur la Lune quand c'était encore possible.
Mais en mettant en scène la mort après la mort, souvent dans l'imaginaire, hein, je vais faire global, c'est un peu une question globale. Est-ce que finalement notre désir d'éternité, c'est une réaction par rapport à la peur de la mort ou c'est un véritable désir ?
Pour moi, c'est une réaction à la peur de la mort. Parce que je n'ai pas de désir d'éternité, je n'ai pas peur de la mort.
Effectivement, c'est pas désir d'éternité, non, c'est simplement la peur de la mort, la peur de souffrir. Je crois que c'est surtout ça, c'est la peur de souffrir.
Peur de souffrir, et pour certains, la peur de disparaître.
Oui.
On ne peut pas dire quelque chose qu'on ne connaît pas, de toute façon, donc c'est réglé. Mais par contre, pour rebondir sur la science-fiction, il y a un point extrême, un point limite qui est quand même passionnant, qui n'est plus un rituel, mais une pratique, qui n'est plus sacrée, mais qui est profane, c'est Soleil Vert. Parce que justement, là, c'est le basculement complet, tout ce qui est sacré, tout ce qui est religieux est évacué, et les corps sont recyclés pour l'usage des vivants.
Il y a le rituel de Logan Run aussi, à ce moment-là, où je crois que c'est à 32 ans, on est soi-disant tiré au sort pour pouvoir accéder à l'éternité ou mourir.
Bien, on a donc appris que la crémation avait une empreinte carbone et que les Aztèques avaient des chouettes rituels quand même, hein, ça déconne sec. Puisque tout le monde a survécu, est-ce que quelqu'un a une question ? Et vous étiez pas loin, hein, vraiment. Bien joué. Hein.
C'est bon, ça marche. Oui. Par rapport au rituel de la mort dans la science-fiction, enfin notamment dans la science-fiction, on parle beaucoup de l'homme qui va partir coloniser l'espace. Et du coup, bon, on parle aussi beaucoup de l'éternité, et notamment les sociétés dystopiques avec des classes riches qui accéderont à l'immortalité, et les autres, ma foi, ils se débrouilleront à l'ancienne. Mais il y a pas mal, enfin je voudrais parler moi de deux séries d'animation japonaise où on peut voir du traitement de la mort. Il y a la série dans Albator, on a des morts qui sont largués dans des caissons dans l'espace. Notamment le...
Ça c'est très courant, les caissons dans l'espace. Ouais. C'est un peu comme les morts en mer.
Ouais.
C'est la pratique de la marine.
Et il y a une autre série qui est une série Gundam assez récente qui parle notamment des enfants soldats, où on a tout un équipage composé uniquement d'enfants soldats, mais à qui on n'a jamais appris les rites autour de la mort. Et un jour, ils ont un de leurs camarades qui meurt dans l'espace et se posent la question, bah, eux, ils seraient juste à le laisser comme ça, mais il y a un adulte qui est là qui fait, non, attendez, on ne peut quand même pas le laisser là. Et il va leur apprendre le rituel de, on va mettre le corps dans un caisson avec des objets, on va le larguer hors du vaisseau et avec vos mécas, vous allez tirer dessus pour détruire le... Pour détruire le caisson. Du coup, voilà, ça me fait penser à ça. J'avais trouvé. De toute façon, il va bien falloir qu'on ait des nouvelles pratiques si on part dans l'espace. Et il y a en Californie actuellement, ils ont une nouvelle forme de traitement des corps qui s'appelle l'aquamation, qui utilise l'eau pour dissoudre les corps. Bon, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus écolo. C'est pas encore autorisé partout aux États-Unis. Je ne sais pas si un jour on pourra avoir ça en France. Mais est-ce que ça pourrait être un mode d'utiliser.
Alors, l'aquamation dans du gasoil, je pense que oui. Écologiquement.
Est-ce qu'il y aura encore du gasoil?
Sinon, il y a l'acide, hein, ouais. c'est... Et les cochons.
Non, mais c'est à mettre en relation avec effectivement l'archéologie. Hein, quand je parlais tout à l'heure qu'effectivement les archéologues sont très très souvent sur des sépultures, mais c'est que dans les sépultures, il y a beaucoup d'éléments qui accompagnent hein, pour la personne dans l'au-delà. Bon, donc tout c'est dans toute cette pyramide égyptienne, hein, la quantité d'objets, vous avez tout en tête, tout en camon, bien sûr, mais dans les gallo-romains, moi j'ai en tête cette petite tombe gallo-romaine de Tarragone, d'une jeune fille, d'une enfant d'ailleurs de 3 ans avec sa poupée. Alors j'ai cette poupée, c'est une copie, hein, rassurez-vous, c'est une copie dans mon bureau et c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait prenant.
Tant que c'est la poupée que vous avez en copie.
Oui, la poupée,
il y a la poupée vaudou sinon.
Une autre question?
Oui, ici. Ouais, c'est vrai que je suis assez tenté par l'idée des forêts-cimetières et du coup j'avais deux questions. Est-ce qu'on peut imaginer sélectionner des espèces d'arbres qui justement participent à la dépollution de nos corps? Et la deuxième question, est-ce qu'on a des exemples dans l'histoire d'espaces qui permettent à travers la mort de dépasser justement l'opposition nature et culture finalement?
Alors oui, il y a notamment une nouvelle de Tim Ray dans l'anthologie d'Utopia de l'année dernière où du coup, pour accéder à une sorte de forme d'immortalité, les humains, en tout cas, deviennent des arbres.
Il y a Technophérie où les fées deviennent des arbres.
Exactement.
Quant à voir les espèces, bon, ça c'est encore un choix qui doit se porter sur un certain nombre de variétés. Peut-être qu'il y a déjà des pépiniéristes qui sont en train de réfléchir à cette question. C'est vrai qu'il y a des dépolluants, hein, bien sûr, il y a des espèces qui sont tout à fait dépolluantes. Mais oui, pourquoi pas.
Quand on fait des recherches, moi j'en ai fait pour Technophérie, il y a vraiment des recherches qui ont été faites pour sélectionner justement les essences d'arbres ou d'autres plantes qui sont détoxifiantes. Celles qui sont détoxifiantes, comme le cannabis et le tournesol, par exemple, ou qu'on utilise, par exemple, à Tchernobyl, ou des arbres, par exemple, qui sont capables de pousser dans le désert à cause de la profondeur de leurs racines. Et donc, on fait déjà des expériences, et il y a des expériences de lagunage aussi, pour nettoyer les eaux, pour nettoyer certains terrains. On a vraiment déjà fait pas mal de recherches sur les moyens d'essayer de réparer la planète avec des plantes et des arbres.
Tu aimais ton grand-père, fume-le.
Alors, moi, je voulais juste réagir au problème qui a été posé par la question de la crémation dans la religion, en tout cas au niveau de la religion catholique. Ça va peut-être vous aider à dormir cette nuit. Au niveau de la crémation, la religion catholique a absolument aucun problème dessus. C'est-à-dire que qu'on enterre le corps ou qu'on le brûle, ça reste la même chose. Tu es né poussière et tu redeviendras poussière. C'est dans la Bible, ça a été dit. En plus de ça, pour étayer ça, au moment de la conversion des peuples vikings Donc, eux avaient l'habitude de brûler leurs morts, en tout cas les morts importants. Au moment de la conversion, l'Église catholique ne pouvait pas se permettre de leur dire « Ah non, stop, c'est fini, ça vous arrêtez complètement. » Donc, au moins à partir du XIe ou du XIIIe siècle, la crémation dans la religion catholique a été tolérée et voire même complètement acceptée. Voilà.
Merci. Mais à ce moment-là, on n'a plus de saints. Bien sûr, bien sûr.
C'est très intéressant d'ailleurs de regarder les registres des sépultures, hein, quand vous regardez les registres de sépultures anciens, et vraiment cette distinction qui est faite, bon, je pense que là, vous serez peut-être probablement plus à même d'en parler, mais sur le corps, vraiment, on sent que c'est, bon, c'est le corps de la personne, mais c'est le corps, c'est tout, c'est rien d'autre, hein, et bon, évidemment, la crémation, dans ces cas-là, ne pose aucun problème, puisque c'est simplement le corps. Alors, certains, évidemment, ont droit à être enterrés dans l'église, et puis d'autres, bon, en dehors, mais en tout cas, c'est quand même, c'est tout à fait significatif.
Les soldats écossais qui combattaient à l'étranger avaient, semble-t-il, l'habitude de faire bouillir les corps parce qu'ils voulaient récupérer les os pour pouvoir les transporter et les rapporter en Écosse pour que le corps et l'âme qui l'accompagnerait puissent reposer en terre natale.
Ça, c'est le problème avec les Britanniques qui font tout bouillir.
Moi, je ne boirais pas un thé de la même manière maintenant. Il y avait une dernière question, ce qui est 57.
On a beaucoup parlé de la fonction politique de la mort et dans les rituels anciens, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on est dans une société de l'éternelle jeunesse, on repousse toujours plus le vieillissement et ses conséquences? Est-ce qu'on accorde encore réellement une place, nous, à la mort, dans nos sociétés actuelles?
Oui. Oui. Si on ne pleure pas à un mort, on est très mal vu.
Merci.
Non, je crois que oui, on continue à accorder. Mais c'est. Est-ce que c'est. Non, je crois que ce à quoi on accorde toujours de l'importance, ce n'est pas forcément la mort, c'est la perte. C'est l'absence. Et c'est ce. On accorde de l'importance à ce qu'on ressent après la mort de quelqu'un. C'est pas vraiment la même chose.
On a tous trop porté d'importance à la mort de Johnny Hallyday, par exemple. Allez, une toute dernière question, et puis après, on change de salle. Ouais.
Bonjour. Moi, justement, ce sera un peu dans la suite de la question d'après. D'avant, plutôt.
Vous êtes dans le thème.
Est-ce que vous avez des connaissances de rituels funéraires qui soient justement très joyeux, plutôt que quelque chose de triste ou de solennel, mais de fêter, bah, c'était vachement sympa et voilà, on passe à autre chose. Quoi.
Merci.
Bêtement, une veillée funéraire irlandaise, c'est très 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 joyeux. Ça chante, ça danse, ça boit, ça rit.
Le Mexique.
Mais même aux États-Unis.
L'Orléans.
Oui. Bêtement, on est là pour parler de la personne disparue et on est là pour se rappeler les bons souvenirs, pour en rire et pour en faire autre chose.
Mais même dans certaines familles, hein, chez nous, ça se fait encore. Il y a le repas, il y a le moment où on va prendre... Venez en Vendée, hein, vous aurez la brioche, vous aurez... Et c'est le moment où, effectivement, on parle du mort, mais on parle de plein d'autres choses. Et puis, c'est pas spécialement triste, oui.
Et même donc on peut fumer papier à ce moment-là. Merci à tous d'être venus et vous les retrouvez tout de suite en dédicace.